Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les deux dernières semaines nous ont offert de très nombreuses propositions dans des genres très variés. L'agenda des jours à venir est à peine moins fourni, avec notamment le prochain opéra programmé au Théâtre du Capitole. Il s'agit d'Othello de Giuseppe Verdi, une reprise de la production créée et mise en scène par Nicolas Joël en 2001, au même endroit, que nous allons donc revoir entre le 14 et le 26 avril lors de 6 représentations, un événement qui va donner lieu à quelques prises de rôle, entre autres concernant les deux personnages principaux. Pour vous présenter cette œuvre et sa distribution, j'ai invité l'ami Robert Pénavert, rédacteur et cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Il est accompagné par son compère Serge Chauzy, également rédacteur et cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Notre trio est reconstitué pour revenir dans un premier temps sur les concerts de la semaine passée. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous deux, bien content de vous retrouver tous les deux pour cette émission. Nous allons consacrer ce premier retour au concert donné par Martha Argerich avec le pianiste sud-coréen Dong Ye Klim le 31 mars à la Halle aux Grains. C'était l'un des prestigieux rendez-vous de la 40e saison des grands interprètes. Et là aussi, c'est toujours un événement quand la légendaire pianiste argentine se produit à Toulouse en duo ou accompagné par un orchestre. Serge, vous étiez présent à cette soirée. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec la grande Martha et son complice d'un soir?
Oui, bien sûr, c'est toujours un grand plaisir d'assister à un concert de Martha Argerich, qui, il faut le dire, a noué tout de même avec Toulouse, et en particulier les grands interprètes, des liens à la fois solides et fidèles. Et donc, le 31 mars dernier, elle a dialogué avec le jeune pianiste coréen Dong Ye Klim. Ils étaient déjà venus d'ailleurs, et c'était exactement le 13 avril 2024, au cours d'un concert qui, à l'époque, comprenait des œuvres de Schubert et Rachmaninov. Alors, ce 31 mars dernier, Rachmaninov figurait toujours au programme, mais il était accompagné, si l'on peut dire, par Mozart et Ravel. Donc le concert a débuté avec la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, qui ouvrait la soirée sur, on peut dire, une atmosphère de fête en quelque sorte, hein, avec un dialogue entre les deux interprètes qui évoque parfois des échanges genre questions-réponses. Alors ce qui est curieux, c'est que l'Allegro con spirito, qui ouvre la pièce, on dirait une ouverture d'opéra, exactement. Alors que l'andante, c'est un peu une aria, et le final, alors ça pétille de mille feux. Alors, les deux pianistes jouent le jeu, effectivement, de ces échanges avec esprit, mais il faut reconnaître que leurs touchés respectifs se distinguent nettement l'un de l'autre. Si Dong Ye Klim privilégie une frappe un peu percussive, hein, on dira, un peu forte, Martha Argerich, elle agrémente ses phrasés d'une riche gamme de nuances. C'est un jeu raffiné, un jeu très beau, qui est énergique, hein, mais très raffiné. Et donc, à la suite de ce Mozart, on a eu droit à une version qui est rarement donnée. C'est la fascinante, on peut dire, version pour deux pianos de La Valse, le poème symphonique de Maurice Ravel, qui faisait un contraste tout à fait saisissant avec Mozart, évidemment. Alors, ça n'est pas simplement, bien qu'il soit irrésistible, un crescendo. Mais là, les deux interprètes, bizarrement, qui ont interverti leur place. Le premier pianiste est devenu le second, et le second a repris le premier, la première place, donc. Ah là, c'est vraiment impressionnant. C'est une sorte de construction dramatique qu'ils ont élaborée jusqu'à ce que Ravel lui-même a qualifié de tourbillon fantastique et fatal. C'est vraiment caractéristique de cette œuvre. Vraiment impressionnant avec un final délirant. Et puis toute la seconde partie du concert, elle était consacrée aux fameuses danses symphoniques dans la version pour deux pianos, évidemment, opus 45, de Rachmaninov. Alors c'est un peu une œuvre ultime du compositeur russe, hein, considéré par certains musicologues comme un bilan de son art. Alors la version symphonique initiale, elle date de 1940, Et elle a été dédiée au chef d'orchestre Eugène Normandie et à l'orchestre Philadelphie. Mais sa transcription, c'est une autre œuvre, hein, en quelque sorte, hein, donc très dynamique aussi. Alors, on se souvient, en tout cas je me suis souvenu, de l'interprétation que Martha Argerich en avait donnée en 2007 au cours de Piano Jacobin. Et à l'époque, c'était en compagnie du grand Nelson Frère, disparu depuis. Ça a laissé des souvenirs extraordinaires. Alors la richesse harmonique et mélodique, le foisonnement rythmique sont de nouveau là, évidemment, un pain béni pour les deux interprètes, avec toujours les mêmes différences de jeu entre les deux pianistes, avec des emportements lyriques, puis une énergie bouillonnante, avec toujours ce raffinement que Martha Argerich introduit dans les différentes variations, hein. Avec le non allegro, qui est le titre du premier mouvement, c'est très bizarre, hein, non allegro. Là, c'était vraiment impressionnant. Et puis, le tempo di valse, qui avait un ton un peu sarcastique, là. Et puis, la section finale, donc, qui explose vraiment, littéralement. Alors, le public a manifesté un enthousiasme délirant. Donc, les interprètes sont revenus, et ils ont donné, non pas un, mais deux bis, avec tout d'abord la transcription de Gyorgy Kurtág pour piano à quatre mains de la sonatine extraite de la cantate Actus Tragicus de Bach. C'est pas si souvent donné.
Très inattendu, hein. Oui. Comme
ah, complètement. Et c'était, alors là, un moment d'éternité en quelque sorte. C'était magnifique. Hein. Et ensuite, ils se sont lancés dans un bis, mais un bis très consistant, de 16 minutes à peu près. C'était la fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains. Cette fois de Franz Schubert. Alors les deux bis n'ont pas été joués à deux pianos, mais à quatre mains sur le même clavier. Et ça a entraîné vraiment une ovation debout du public qui était enthousiaste devant la performance de ces deux.
De toute façon, le public est toujours tout acquis à Martha Argerich. Ah bah oui, passe. Alors oui. À Toulouse encore plus, parce que comme vous l'avez dit vous-même, une fidèle maintenant de cette saison des grands interprètes. Où elle vient, je ne saurais même pas dire depuis combien de temps.
Cool,
et puis elle est venue au Jacobin aussi.
Au Jacobin.
Plusieurs années.
Elle vient pratiquement tous les ans.
Enfin, oui, voilà.
C'est vraiment un monument.
Martha Argerich qui va avoir 85 ans dans quelques semaines.
Et oui, elle est toujours aussi énergique et toujours aussi raffinée. Enfin, vraiment, c'est un phénomène.
Lors de ce concert du 31 mars, il y avait donc les fameuses danses symphoniques de Serge Rachmaninoff, dont voici une interprétation par le duo Martha Argerich-Dongye Klim.
Thank you.
extrait des danses symphoniques de Serge Rachmaninoff, interprété par le duo Martha Argerich, Dong Yeklim. Le prochain concert du cycle des grands interprètes aura lieu maintenant le 22 mai, puisque celui que devait donner le 24 avril un autre duo de pianistes, Maria Joao Pires et Marc-André Hamelin, a dû être annulé après l'annonce de la retraite un peu anticipée, il est vrai, de la grande musicienne portugaise. Le même soir et à la même heure, hélas, parce qu'il a bien fallu faire un choix entre les deux, il y avait un concert de la saison des Arts Renaissants à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Il réunissait là encore deux pianistes, Constant Després et Rolando Luna, et le mandoliniste Julien Martineau, un trio un peu improbable sur le papier, mais formé déjà depuis quelques années et qui se produit de temps à autre dans notre région. Le programme était évidemment constitué de nombreux arrangements, mais pas seulement, puisqu'en fait les trois musiciens jouent la plupart du temps lors de ce programme en solo ou en duo, le trio étant en fin de compte la configuration la plus rare de ce concert. Il y a donc eu de la mandoline seule, du piano seul, du piano à quatre mains et un duo piano-mandoline avant que nous puissions entendre les trois musiciens ensemble à la fin. C'est Julien Martineau qui a ouvert la soirée en présentant au public chacune des pièces qu'il a jouées. D'abord un prélude de Raffaele Calace, ce compositeur qu'il considère comme le plus grand ayant écrit pour la mandoline et dont il aime à dire qu'il est une sorte de croisement entre Chopin et Paganini. Il n'a pas manqué de le rappeler d'ailleurs en présentant les œuvres. Il est vrai que ses compositions sont très virtuoses, ce qui correspond bien, ma foi, aux aptitudes d'un Julien Martineau qui a enchaîné avec Asturias, la célèbre pièce d'Isaac Albéniz, composée à la base pour le piano, mais que nous entendons le plus souvent dans sa version transcrite pour la guitare, notamment grâce à Thibaut Garcia, dont c'est une des œuvres signatures. Julien Martineau a réalisé son propre arrangement pour la mandoline, et ça fonctionne plutôt bien, ce qui ne me paraissait pas évident au départ. Constant Després a pris la suite. Seul au piano, il a joué successivement trois œuvres, Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, la danse espagnole orientale d'Enrique Granados et les Danzas Argentinas d'Alberto Ginastera. Lui aussi a présenté les pièces qu'il a jouées. Je rappelle que Constant Després est toujours étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il est en Master 1 cette année. C'est un tout jeune musicien que l'on suit depuis des années et que l'on voit progresser et évoluer dans son jeu à chaque concert. Alors personnellement, moi j'ai trouvé qu'il avait franchi un palier. C'est surtout son interprétation d'Alborada del Gracioso qui m'a frappé, nettement plus aboutie que celle qu'il avait donnée en juillet dernier lors d'un concert du festival Deodat Zebrak. Robert, vous qui suivez depuis des années, comme moi, hein, le jeune Constant, qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation à Saint-Pierre des Cuisines?
Effectivement, Eric, c'est très intéressant de suivre un pianiste, quel qu'il soit, un jeune interprète, d'autant que nous avons eu la chance, hein, il est toulousain, hein, de l'entendre au Capitole. Il avait, pas au Capitole, à Saint-Pierre-des-Cuisines, il avait 13 ou 14 ans,
absolument,
à peine. Bon, voilà. Et alors, on voit, bon, évidemment, premièrement, physiquement, il se fait homme,
oui,
premièrement.
Oui,
voilà. Hein, bon, voilà. Maintenant,
c'est
quand il se présente au piano, c'est plus un gamin de 13 ans.
Quoi, voilà. Et donc,
quand il commence à jouer, effectivement, on sent une maturité qui est en train de naître. Alors, évidemment, il avait fort à faire lors de ce récital, parce qu'il était à côté d'une espèce de bombe en explosion permanente.
Un phénomène.
Qui est Rolando Luna. Je rappelle que quand même, il est le dernier pianiste du mythique Buena Vista Social Club.
Oui, oui, oui.
Donc, vous imaginez. Et lui, il ne joue pas du piano. Il joue avec le piano. Il le regarde à peine, le piano. C'est-à-dire, il joue avec une virtuosité, avec un sens artistique, un sens émotionnel, mais sans regarder le piano. Il regarde le public, il interpelle le public pendant qu'il joue.
Il sourit pendant qu'il joue en regardant le public.
Voilà.
C'est étonnant de voir ça.
Évidemment, il a 30 ans.
Il s'amuse, quoi, en fait.
Il a 30 ans de métier de plus.
Un musicien né qui joue comme il respire, Rolando Luna.
Voilà, absolument. Et puis, ce qu'il veut faire, c'est faire participer le public. On ne peut pas demander à 18 ans une pareille attitude à n'importe quel pianiste. Ça, c'est impossible. Mais Constant Després, aujourd'hui, commence à avoir, alors je le disais, je le répète, une maturité, puis en même temps, un sérieux dans son approche, une attention à son approche. Mais peut-être que ça fait partie aussi de sa personnalité.
Oui.
Voilà, c'est comme ça. Alors, comment il va évoluer dans 10 ans, 15 ans? Personne aujourd'hui peut le dire.
Il n'a pas encore 20 ans, hein. C'est vraiment un tout jeune homme et un tout jeune musicien, bien sûr.
En même temps, quand il y a, comme je le dis, une espèce de volcan en éruption permanente comme Rolando de Luna à côté, ça doit être un peu intimidant, même s'ils ont l'habitude de jouer ensemble.
Oui, maintenant, depuis...
Ils sont complices tous les deux.
Au moins 3 ans.
Bien que Rolando Luna l'a pris sous son aile et le câline, artistiquement parlant. Voilà. En plus, ce n'est pas vous, Eric, mais moi, et je pense que je n'étais pas le seul, Constant Després nous a fait découvrir un instrument.
Le mélodica, j'allais en parler, effectivement.
Le mélodica.
Oui.
C'est un instrument... Tu connais, Serge, cet instrument?
Alors, moi, je le connais grâce à lui, parce qu'il y a quelques années qu'il en joue.
C'est un instrument à clavier.
Mais dans lequel il faut souffler.
Dans lequel souffle, le pianiste d'ailleurs, souffle.
D'ailleurs, le son, c'est quelque chose qui est entre l'harmonica et l'accordéon.
C'est ça, l'accordéon, oui. Voilà. C'est un son très spécifique. Hein.
Mais très beau et qui allait très bien.
Très
alors
beau,
effectivement,
oui.
Je reviens sur Rolando Luna, quand même pour dire qu'il a fait quelque chose. Enfin, il a improvisé sur Bach, sur Debussy, sur Chopin, sur des standards du jazz aussi. Puis alors, il a joué inévitablement du Nougaro, parce qu'il fait ça déjà depuis quelques années lors de ses concerts lorsqu'il est à Toulouse. Et il y a eu, au Toulouse, quelle surprise, mais il y avait le Coq et la Pendule, qui à la base est une mélodie qui a été écrite, composée par Maurice Vander, très grand musicien, qui était pianiste attitré de Nougaro. Et puis il y avait Ah, tu verras, qui avait été aussi arrangé par Vander sur un air qui, lui, nous vient du Brésil.
Non, c'était pas tout.
Ah, c'était pas tout, non,
souvenez-vous, mais... il a fait une improvisation sur la méditation de Thaïs.
De Thaïs aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Dans la partie où il improvisait sur des grands morceaux du classique.
Ça, c'est très ouvert, très
varié.
Hein.
Et alors, il s'amuse pendant qu'il joue comme ça, en souriant. À un moment, il demande au public si on en a reconnu. Quoi.
Ah, oui, je l'ai reconnu.
Ah, c'était amusant.
Il nous l'a demandé pendant les Nougaro. Quand même.
Là,
je ne suis pas certain que tout le monde ait reconnu le Coq et la Pendule. C'est pas sûr. Voilà, donc la seconde partie du concert était réservée à des duos. Il y a eu celui de Julien Martineau et Constant Després sur le premier mouvement Maestoso du concerto pour monoline numéro 2 de Calacci, encore lui. Et puis donc Rolando Luna et Constant Després ont joué Oblivion d'Astor Piazzolla. Le Cubain était au piano et le jeune musicien français au mélodica. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens présents. Ben vous, apparemment, Robert, qui ont découvert cet instrument.
Qu'on l'entend... Moi, je l'ai découvert, oui.
Jamais. C'est un instrument qu'on entend très, très, très rarement. Mais en tout cas, sur Oblivion, ça fonctionne très bien, puisque c'est un morceau composé à la base pour le bandoneon. Et comme le son du mélodica est proche de l'harmonica et de l'accordéon, ça fonctionnait effectivement très bien. Bon, les trois musiciens, en fait, se sont réunis vraiment sur la fin pour interpréter l'introduction du concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, Spain de Chic Corea. On revenait au jazz. Et puis donc, enfin, le fameux Libertango d'Astor Piazzolla, dont leur version très énergique a enflammé l'assistance. Tellement enflammé qu'ils sont revenus en jouant un extrait en bis, ce que tout le monde attendait. Voilà, ça donnait une très belle soirée. Je pense que vous avez apprécié ce concert, Robert.
Non, mais bien évidemment. Alors, d'abord, voir, comme on dit, un pays jouer aussi bien. Bon, on en a d'autres. On a, comme pianiste, on a Bertrand Chamaillou, on a Adam Laloum.
Adam Laloum, Nathanaël Gouin.
Mais voilà, la nouvelle génération qui arrive.
Oui.
C'est ça qu'il faut prendre en compte. Avec beaucoup, beaucoup de promesses.
Alors, au programme, il y avait donc Oblivion d'Astor Piazzolla. Dans la version pour piano et mélodica jouée par Rolando Luna et Constant Després, nous allons la réécouter, ce qui va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir le son du mélodica. Thank you. Oblivion d'Astor Piazzolla dans la version pour piano et mélodica de Constant Després Rolando Luna. Je signale au passage que les deux musiciens viennent de faire paraître un nouveau CD intitulé Double Accord sous le label L'Esprit du Piano. Et vous noterez d'autre part que le prochain et dernier concert de la saison 25-26 des Arts Renaissants est programmé le vendredi 17 avril à 20h à l'église Saint-Jérôme où se produit un autre duo, celui formé par le luthiste Thomas Dunford et le violoniste Théotime Langlois de Zwart qui vont donner le programme de leur magnifique CD Mad Lover. Un autre concert avait lieu la semaine passée, le jeudi 2 avril, à la Halle aux Grains, celui de l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tarmo Peltokoski, pour un programme 100% russe, qui nous a permis d'entendre une jeune pianiste tout aussi russe, Serge Alexandra Dovgan, que nous avions découverte pour la première fois à Toulouse en septembre dernier, lors d'un récital qu'elle avait donné dans le cadre du festival Piano Jacobin.
Et oui, une pianiste de 18 ans.
Et encore une toute jeune pianiste.
Voilà. Alors, je dois dire que voir le podium avec un chef de 25 ans et une pianiste de 18 ans, ça fait tout de même...
Ça donne un coup de jeûne, en fait.
Un coup de jeûne au concert de musique classique. Hein, c'était incroyable. Ce concert, pour moi, était complètement éblouissant. D'une part, on a assisté, dans la symphonie de Chostakovitch, à un séisme musical. J'y reviendrai, mais je voudrais d'abord parler de la pièce concertante, qui était la première pièce de Rachmaninov, la Rhapsodie sur un thème de Paganini. Alors, ce thème de Paganini, il a été utilisé par de nombreux compositeurs, y compris par Brahms et par Franz Liszt. C'est le Caprice pour violon seul numéro 24 de Niccolo Paganini, qui était donc le diable du violon à l'époque. Hein. Ce caprice original est d'une difficulté diabolique. Et donc, dans sa version pour piano, c'est aussi lourd.
C'est pas la portée de...
Ah oui, non,
premier
vraiment.
Pianiste qui passe.
Alors, la pianiste qui jouait la soliste, la pianiste russe, donc, elle a été lauréate de 5 concours internationaux. Alors, elle aborde cette rhapsodie avec une flamme et une énergie irrésistible. En plus, son toucher est d'une limpidité cristalline. C'était impressionnant. Elle dialogue de manière équilibrée avec l'orchestre, qui était évidemment parfaitement contrôlé par Tarmo Peltokoski, qui maintenant vraiment domine l'orchestre. L'orchestre, je ne sais pas, a une sonorité particulière sous sa direction. Une sonorité d'une chaleur, d'une homogénéité, d'une beauté impressionnante. Alors la fin de cette pièce donc de Rachmaninov est envahie par le dies irae, la mort qui rôde et qui vient. Là, vraiment, ça a fini... où elle mettait le feu au clavier, carrément. Hein, c'était vraiment impressionnant. L'accueil a été triomphal de la part du public. Elle est revenue sur scène, cette fois avec un bis plus lumineux, dans le prolongement de la rhapsodie, mais plus calme, en quelque sorte. Et il s'agissait d'une des études de tableau du même Rachmaninov, qu'elle a joué avec à la fois virtuosité et musicalité. Et puis la deuxième partie, alors c'était là l'explosion, c'était la symphonie numéro 10 de Chostakovitch qui a été composée après et il faut dire en réaction à la mort de Staline. Staline est mort en 1953, le même jour que Prokofiev d'ailleurs. Et donc c'est une symphonie de libération de Chostakovitch, mais c'est une partition qui mêle à la fois terreur, liberté retrouvée et puis surtout une signature particulière que Chostakovitch utilise pour la première fois dans cette symphonie. Le parfait dosage des pupitres orchestraux, là c'est vraiment une réalisation que l'on doit au chef, hein, avec des beautés de sonorité impressionnantes. Alors, finalement, il faut se souvenir que Chostakovitch n'avait pas composé pendant des années, pendant au moins 8 ans, n'avait pas composé de symphonie, tout simplement sous la pression du régime soviétique qui considérait que la symphonie, ça n'était pas une forme musicale révolutionnaire. Et là, donc, cette symphonie en 4 mouvements classiques, hein, commence par un moderato qui est vraiment une menace. Inquiétante, ça fait peur. Et c'est initié par les cordes basses, ça part du silence, mais c'est vraiment impressionnant. Avec quelques solos tout au long de la symphonie, des solos des instruments avant, avec la qualité de la petite harmonie que l'on connaît à Toulouse, en particulier le solo de clarinette par David Minetti, c'était absolument merveilleux. Mais ça soulignait la noirceur du propos, et puis avec un crescendo de terreur, véritablement. Ensuite, il y a un très bref allegro, mais vraiment très rapide, une sorte d'élan de révolte contre le tyran, dont le portrait se conclut sur de nouveau un désiré, effrayant, et c'est dans l'allegretto suivant qu'apparaît enfin ce thème signature. Il faut le préciser, c'est un thème qui réapparaîtra dans plusieurs œuvres de Chostakovitch, qui est constitué des notes ré mi bémol do si, dont la transcription dans la notation allemande, c'est tout simplement les initiales de Chostakovitch, mais dans l'écriture allemande, donc DSCH. Alors cette répétition obsessionnelle s'accompagne là aussi de solos instrumentaux fantastiques, un solo de basson, un solo de cor vraiment extraordinaire, avec ensuite un final qui prolonge encore cette proclamation de victoire sur Staline, qui introduit en particulier un solo bouleversant de hautbois avec l'excellent Louis Seguin que l'on connaît, qui est un oboïste magnifique. Et donc cette section laisse enfin entrevoir la lumière, et ce motif signature de Chostakovitch est répété de manière frénétique, de manière à suggérer ce que Chostakovitch souhaitait dire à Staline: tu es mort, mais moi je suis encore vivant, je suis encore là. L'exécution de cette symphonie vraiment restera dans les annales.
Nous allons avoir le plaisir de réentendre, nous, la jeune Alexandra Dovgan, dans une interprétation de la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninov, qui est à la fête aujourd'hui dans cette émission. Elle est accompagnée par l'Orchestre National d'Espagne, dirigé ici par Cornelius Meister. La Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninov, joué par Alexandra Dovgan, accompagnée par l'Orchestre National d'Espagne, sous la direction de Cornelius Meister, Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est vendredi 10 et samedi 11 avril à l'Halle au Grain, sous la direction d'un autre chef allemand bien connu désormais à Toulouse, Frank Berman, pour une intégrale des symphonies de Robert Schumann. Nous allons vous en dire plus en seconde partie d'émission sur ce double concert. En attendant, une courte virgule musicale de quelques secondes et on se retrouve avec Serge Chosy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et dans l'agenda des jours à venir, se profile le grand événement de la seconde quinzaine d'avril, Otello de Giuseppe Verdi à l'Opéra National du Capitole. Il y a 6 représentations du 14 au 26 avril pour cette production qui reprend la mise en scène de Nicolas Joël, créée au même endroit en 2001. La distribution est très belle, avec comme souvent des prises de rôle, dont celle du ténor américain Michael Fabiano dans le rôle titre. Robert Pénavert va nous présenter tout ça dans le détail. Auparavant, selon votre habitude, petit historique des productions d'Othello au Capitole, Robert. Est-ce qu'il y en a eu depuis celle de Nicolas Joël en 2001, reprise donc cette année en ce mois d'avril 2026?
Alors, ça va être très vite fait, en fait, puisque même en remontant à l'entrée au répertoire du Capitole d'Otello, c'est-à-dire saison 1898, en français...
Ah, vous y étiez presque.
En français,
ça, c'est juteux, hein.
En fait, depuis 1898, on ne note aujourd'hui qu'une quinzaine de remises à l'affiche. C'est très peu, quand on pense que, par exemple, Rigoletto a été affiché plus de 30 fois.
Oui.
Voilà, etc. La Traviata, n'en parlons pas. Bon. Mais en fait, c'est lié simplement au fait qu'il est très difficile de trouver un interprète du rôle-titre, qui est un lyrico-dramatique. Alors, puisqu'on parlait d'historique, je ne sais pas s'il y a encore des Toulousains qui ont, dans leur mémoire, avoir entendu Henri Saint-Cricq et José Luxioni, mais ils ont été les grandes figures du mort vénitien au milieu du XXe siècle. Et puis, évidemment, dans Othello, quand même, il n'y a pas que le ténor.
Il y a Desdemone, quand même.
Il y a un baryton dont le nom est très connu, c'est Pierre Nougaro, qui a été un grand Iago.
Il a un fils qui a fait carrière aussi, je crois, il me semble.
Il a un fils dont on parle beaucoup. Toulouse. Voilà, Pierre Nougaro l'a chanté en 1949. Il y a eu également un Otello qui a chanté Iago, c'était Ramon Vinay, était un ténor wagnérien en fait, mais qui avait une voix très, très puissante, très sombre. C'était en 1963, il a chanté le rôle du baryton. Et puis en parlant de Desdemone, évidemment, on ne peut pas passer sous silence, en 1953, n'est-ce pas, Serge? Régine Crespin,
oula.
Qui a chanté Desdemone.
Oui.
Pardon, mais ça devait être...
Oui. Alors bon, ça devait être quelque chose.
Si on se rapproche de nous, il y en a un célèbre, un Roumain, qui a gagné en 1964 le concours de chant de la ville
je
de Toulouse. Et là, maintenant, c'est un peu notre époque.
Oui, oui, absolument. Nous en souvenons. C'est
voilà.
Bien, Ludovico.
Spies.
Et voilà.
Spies qui, en fait, assez rapidement s'est retiré du métier.
Oui.
Pour se lancer à la politique.
Ça arrive parfois.
Voilà, dans son pays, en Roumanie.
C'est une autre façon d'occuper les tréteaux, la scène.
C'est
et
vrai.
Le micro.
C'est vrai, absolument. Et en 1969, j'ai un souvenir particulièrement précis d'un ténor italien qui s'appelait Pierre Miranda Ferraro, l'un des partenaires privilégiés, n'oublions pas, de Callas, et qu'on a eu la chance de l'avoir, qui était le grand mort de ces années-là. Après, il va falloir attendre la saison 2001-2002. Et très clairement, le 5 octobre, donc, ouverture de saison avec le grand Otello de cette époque-là, au niveau mondial, qui était Vladimir Galoussine.
C'était un spécialiste.
Il le chantait partout.
Oui.
Il chantait partout. À ses côtés, par contre, il y avait une prise de rôle très importante et que je tiens à souligner, parce qu'elle était assez réussie. Autant que je me souvienne, coup de chapeau à notre compatriote toulousain, Jean-Philippe Lafont, qui abordait son premier Iago.
Iago.
Voilà, avait réussite. Et il y avait vraiment une grande dame du chant de cette époque-là, une soprano chilienne, Cristina Gallardo Domas, qui chantait sa première Desdemone à Toulouse et qui avait été véritablement somptueuse. Et c'était dirigé par Alain Lombard. C'était une nouvelle production, mise en scène par Nicolas Jouet,
oui,
avec les décors d'Ezio Frigerio, les costumes de Franca Squarciapino et évidemment les lumières du quatrième larron de cette histoire, Vinicio Kelly. Et c'est cette production qui est reprise.
C'est exactement la même qui est reprise, mais bon, on va y venir. Avant que vous nous présentiez la distribution et puis aussi celle qui va mettre en scène, reprendre la mise en scène de Nicolas Joël, celle de 2001, on va écouter un premier extrait d'Othello, un chœur fameux, feu de joie, que l'on entend à l'acte 1 de l'opéra de Giuseppe Verdi. Chœur, feu de joie, l'acte 1 d'Othello, premier extrait de l'opéra de Giuseppe Verdi. Robert, c'est le moment de nous présenter la distribution de cette production proposée par l'Opéra National du Capitole, du 14 au 26 avril, je le rappelle, dans la mise en scène de Nicolas Joël, créée en 2001 et donc reprise en 2026. Nous allons commencer par le ténor qui tient le rôle titre, l'Américain Michael Fabiano, dont ce n'est pas la première sur la scène capitoline. On l'a déjà entendu, mais c'était dans une circonstance un peu particulière, il est vrai.
Oui, il a fait ce qu'on appelle un jump-in, hein, c'est-à-dire que Christophe Gristi se trouvait en panne de ténor pour une longue série
Carmen.
Rocambolesque, si l'on peut dire, de Carmen, puisque en 9 représentations, il y a eu 8 distributions différentes, et sur la 7e, il y avait une panne de ténor, mais bon, voilà, Christophe Gristi a quelques 0,6 dans la poche et il avait très envie depuis longtemps de faire venir Michael Fabiano à Toulouse. Donc, il a appelé et il a pris un avion, il est arrivé et puis il a chanté. Il connaissait le rôle, bien évidemment. Hein. Et il a un français impeccable. Enfin, bon, voilà, c'est un grand artiste, Michael Fabiano. Alors, la distribution de cet Othello, c'est une distribution de prise de rôle et de début au temps du Capitole. Alors, premier début, le maestro italien Carlo Montanaro, qui sera pour la première fois au Théâtre du Capitole. Alors, c'est un grand spécialiste du répertoire transalpin. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, il connaît tout ça parfaitement. Et c'est bien, parce que par contre, il a devant lui des prises de rôle. Et entre autres, effectivement, celui d'Othello. Alors, à vrai dire, ce n'est pas tout à fait une prise de rôle, puisqu'il vient de chanter le rôle juste là, il y a quelques jours, au théâtre Pérez Galdós de Las Palmas. Donc, il a chanté, mais en costume, avec une production, un orchestre. Donc, il le fait chez nous, on va dire, dans d'autres conditions. Et puis ensuite, il va le faire au Colón de Buenos Aires. Et il a déjà été retenu pour les reprises d'Othello au Metropolitan de New York. Donc, Michael Fabiano, c'est une véritable coqueluche des plus grandes scènes de la planète. Et c'est un grand bonheur de l'avoir, évidemment, au Théâtre du Capitole. Prise de rôle et début toulousain pour la soprano franco-guatémaltèque Adriana González. Ça va être très très intéressant. C'est une soprano qui est entre le grand lyrique et le dramatique, donc c'est tout à fait la voix du rôle. Et début toulousain, mais pas prise de rôle, pour le baryton géorgien Nicolas Lagvilava. Alors lui aussi fera ses débuts au temps du Capitole.
Oui, alors lui, c'est un spécialiste du rôle de Iago.
Oui, c'est pas une prise de rôle, voilà. Mais il y a des seconds rôles, il faut toujours le dire, parce qu'au Capitole, c'est ça, les seconds rôles chantent des premiers rôles partout. Alors par exemple, on va retrouver dans le rôle de celui par qui le malheur arrive, Cassio, à son corps défendant évidemment, vous le savez, mais Julien Tran,
oui.
Celui qui d'un coup de moto... nous a sauvé une représentation de Lucia de la Mermo il y a quelques semaines. Et là, il se présente, mais il était prévu déjà.
Oui, il était prévu, voilà.
De longue date,
voilà. Tout à fait. Alors, je suis sûr qu'il va encore avoir droit à une ovation.
Ah ben ça, j'en suis sûr. Dans le rôle d'Emilia, excusez du peu, mais c'est Irina Sherazadishvili. Non, mais vous imaginez un peu,
aussi, hein.
Pour chanter 3 minutes. Andreas Sulbaran, Rodrigo, lui, je ne le connais pas. Jean-Ferdinand Setti dans Lodovico.
Lui, c'est un habitué de la scène.
C'est un habitué, souvenez-vous, dans Les Pêcheurs de Paris.
Il est formidable à chaque fois.
C'est absolument gigantesque de 3 mètres. Voilà. Et alors, on va faire connaissance avec une très belle basse que moi, je n'ai pu écouter pour l'instant que sur YouTube, qui s'appelle Zaza Gagua. Écoutez au bataillon, mais j'imagine que s'il le fait débuter comme il fait souvent, Christophe Grissi, dans un petit rôle, il a des idées pour lui dans le futur.
Oui.
Parce que c'est vraiment une très belle voix.
Oui.
Une basse remarquable. Voilà. Donc, c'est vraiment une reprise d'Othello qui s'annonce sous les auspices
sous
les plus excitants.
Tellement meilleurs auspices que c'est déjà complet, Robert.
C'est complet, oui.
Oui, alors, on peut toujours essayer d'avoir des places au dernier moment.
Oui,
c'est faisable. Hein, mais bon.
Parce que Claire Osereux de Melun, qui est l'administratrice, entre autres, du Capitole, tient toujours à ce qu'il y ait au dernier moment, enfin pour la dernière semaine, elle libère des places.
Voilà, bon, donc on aura bien sûr le chœur du Capitole préparé par Gabriel Bourgoin et la maîtrise du Capitole, l'orchestre du Capitole dans la fosse, et donc Émilie Delbé qui va reprendre la mise en scène de Nicolas Joël.
Donc Émilie Delbé, nous connaissons sa maman.
Oui.
Et puisque c'est elle qui a fait les mises en scène de Norma. Et donc, ben voilà, ça se fait. Il y a des cahiers, très clairement, il y a des cahiers. Nicolas Joël avait écrit tout, ligne à ligne.
Bon, elle va apporter sa petite touche, sans doute, mais l'essentiel est évidemment il va rester fidèle à ce qu'on avait fait Nicolas
mais
Joël.
Mais voilà, donc les décors seront...
Les costumes, les lumières, a priori, tout est repris tel que c'était en 2001.
On était vraiment...
Alors,
la production n'a pas loupé.
Donc ça, c'est du 14 au 26 avril, 6 représentations. Il y a une autre date à noter dans les agendas pour les amateurs de grande voix, Robert, le récital du baryton allemand Matthias Görn, jeudi 16 avril à 20h, toujours au théâtre du Capitole. Eh bien, voilà un autre artiste qui a, je vais oser le terme, son rond de serviette depuis quelques années sur la scène lyrique toulousaine.
Oui,
et c'est une très grande chance pour nous. Hein. Quel programme présente-t-il cette fois, accompagné par le pianiste Alexander Schmalks?
Oui, alors, effectivement, nous avons la chance d'avoir parmi les familiers du théâtre du Capitole, nous avons la chance d'avoir cet immense interprète allemand, de autant d'opéras d'ailleurs que de mélodies, c'est Matthias Görn. Alors, c'est Nicolas Joël qui nous l'a fait venir pour la première fois en 2003, puis en 2005, puis il est revenu. Alors tout ça, c'était dans des récitals de mélodies, magnifiques bien évidemment. Hein. Mais depuis que Christophe Grissier est là, lui, il l'a convaincu de venir dans des productions d'opéra. Donc, souvenez-vous, en 2020, c'était en Fortas, dans Parsifal. En 2021, Electra, il chantait au reste évidemment. Marc dans Tristan Isolde en 2023. Il aurait dû faire une prise de rôle qui était très importante pour lui, à laquelle il tenait. C'était Boris Godounov. Malheureusement, il était souffrant et donc il était obligé de se retirer de cette production. L'année d'après, il revenait pour un récital dans lequel il n'était pas en grande forme, mais peut-être qu'il n'était pas tout à fait remis de ses problèmes de santé, mais enfin, il avait tenu à assurer son engagement. Il devait venir dans un récital Wagner, Pfister et Strauss, et finalement, au dernier moment, il a décidé que ce serait un répertoire Schumann et Brahms. Donc, il va venir, cette fois-ci, dans un programme entièrement Gustav Mahler, rien de moins que les Kindertotenlieder, les 5, rien moins que les Rückerlieder, les 5, mais là, il y a les Knaben wunder Horn, mais pas tous. Il en chante 5, mais ça veut dire 15 leaders et pas des plus faciles, et sans entracte.
Oui.
Mais je le rappelle, parce qu'il faut le dire, maintenant, les récitals sont surtitré en français.
Donc on peut suivre sans problème.
Voilà, donc même si vous n'êtes pas, comme moi, un germanophone, vous pouvez y aller en toute sécurité. Et il sera accompagné par un de ses compères favoris au piano, l'allemand Alexander Schmalz.
Voici un extrait du programme que va chanter Matthias Görn jeudi 16 avril à l'Opéra National du Capitole, Rhein Legenschen, le premier des Knaben Wunderhorn de Gustav Mahler. Rhein Legenschen, les légendes du Rhin, extrait des Knaben Wunderhorn de Gustav Mahler, interprété par Matthias Görn. Le grand baryton allemand est donc en récital le jeudi 16 avril à 20h à l'Opéra National du Capitole, accompagné par le pianiste Alexander Schmalz dans un programme entièrement consacré à des leaders de Mahler. Matthias Görn qui va faire sa première mise en scène, celle de Salomé, au mois de mai à l'Opéra National du Capitole. Ça sera encore un grand moment. Dernier concert à vous annoncer dans l'agenda de la semaine, les deux que donne l'Orchestre National du Capitole, vendredi 10 et samedi 11 avril à 20h à la Halle au Grain, sous la direction d'un autre musicien allemand, le chef Frank Berman, qui lui aussi commence à faire partie des habitués de la Maison Capitole, que ce soit l'opéra ou avec l'orchestre d'ailleurs, et il vient cette fois-ci pour diriger les 4 symphonies composées par Robert Schumann, Serge.
Exactement, et n'oublions pas qu'il a quand même dirigé au Théâtre du Capitole Parsifal, La Femme sans ombre, Electra, La Flûte enchantée et Tristan et Isolde. Quel palmarès extraordinaire. Et donc là, il revient avec l'orchestre, qu'il a déjà dirigé en concert, évidemment, pour donner donc l'intégrale des 4 symphonies de Robert Schumann. Alors, ça débute le vendredi 10 avril avec la symphonie numéro 1, dite Le Printemps, puis la symphonie numéro 4, la dernière, donc, et puis le samedi 11 avril, c'est la deuxième. Et la troisième, la plus célèbre peut-être, puisque c'est la symphonie Rhénan, donc autour du fleuve mythique des romantiques allemands. Je signale aussi que la répétition générale du 10 avril à 10h sera ouverte aux élèves des collèges et lycées, ce qui est tout de même
oui,
très bien.
Qu'il faut saluer.
Une belle initiative. Qui est à
et on peut préciser que Frank Berman a enregistré cette intégrale des symphonies
exactement.
De Schumann il y a quelques années avec le Robert Schumann Philharmonique.
Ah, voilà.
Et c'est ce qui nous permet justement d'en écouter un extrait. On va écouter le troisième mouvement Scherzo de la quatrième symphonie de Robert Schumann dans la version enregistrée par Frank Berman à la tête du Robert Schumann Philharmonique. Thank you. le troisième mouvement Scherzo de la symphonie numéro 4 de Robert Schumann, une version enregistrée par Frank Berman avec le Robert Schumann Philharmony. Le chef allemand va donc diriger l'Orchestre national du Capitole dans l'exécution de l'intégrale des quatre symphonies de Robert Schumann. La première et la quatrième sont données vendredi 10 avril et la deuxième et la troisième sont données samedi 11, les deux soirs à 20h à la Halle au Grain. La billetterie est en ligne à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Je rappelle qu'Otello, l'opéra de Giuseppe Verdi, est programmé au Théâtre du Capitole lors de 6 représentations du 14 au 26 avril dans la mise en scène de Nicolas Joël et que le récital de Mathias Görn est programmé également au même endroit, jeudi 16 avril à 20h. Pour réserver et acheter vos places, s'il en reste, il faut vous connecter au site www.opera.toulouse.fr. Et je resignale enfin que le très beau Stabat Mater d'Antonin Dvorak est donné ce dimanche 12 avril à 17h à la Halle au Grain, sous la direction de Christophe Millet par l'Orchestre Symphonique et les chœurs du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, le chœur du Conservatoire de l'Aveyron et le chœur Nota Bene. Vous pouvez vous renseigner en vous connectant au site www.conservatoire.toulouse.fr. A priori, c'est déjà complet aussi, mais il est possible de se présenter au dernier moment au guichet. Il devrait y avoir des places disponibles. L'entrée est gratuite. Merci à Robert Benavert et à Serge Chauzy d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci aussi à Jonathan Botello et Coraline Camébrac qui ont réalisé ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence comme d'habitude. Et merci à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.